Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. La mort d'une collégienne de 14 ans, tuée d'un coup de couteau reçu près de son collège à Saint-Chéron, dans le sud de l'Essonne. Elle aurait tenté de s'interposer entre deux bandes rivales. Confinement en vue à Dunkerque où l'épidémie continue de flamber, Jean Castex annonce des mesures supplémentaires. Il en a parlé ce matin au maire de Dunkerque. Indicateur à la hausse presque partout, le nombre de malades en réanimation a retrouvé son niveau de début décembre. La pandémie est nettement repartie en France. La vaccination d'entreprise va pouvoir commencer en fin de semaine pour les salariés fragiles. Agile de plus de 50 ans, Emmanuel Macron à la ferme ce matin, faute de salon de l'agriculture, et alors que les négociations sur les prix sont tendues avec la grande distribution. La loi climat du gouvernement, pas au niveau des objectifs pour le Haut Conseil sur le climat. Et puis un regain de confiance des Français pour leurs élus, après une année de crise, même si la défiance reste majoritaire. Invité d'Europe Midi, le directeur général de la Fondation Cartier, Hervé Chandès, qui met en ligne l'exposition consacrée au cinéaste arménien Pélechian.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Une collégienne de 14 ans a donc été tuée hier après-midi dans l'Essonne, tuée d'un coup de couteau en pleine rue, tout près de son collège, lors d'une bagarre entre bandes rivales. Ça s'est passé à Saint-Chéron, près d'Arpajon, Marion Dubreuil.
Oui, les deux bandes rivales se sont retrouvées devant le collège de Saint-Chéron en milieu d'après-midi. Un groupe réside sur la commune, l'autre vient de Dourdan, une petite ville voisine du département de l'Essonne. Une altercation a éclaté. On n'en connaît pas le motif à l'heure actuelle, ni le nombre de jeunes impliqués. Ce que l'on sait, c'est que la victime, une adolescente de 14 ans, a voulu s'interposer. Elle a reçu un coup de couteau dans l'abdomen. L'auteur de ce coup de couteau et ses complices ont pris la fuite dans un premier temps avant d'être interpellés par les gendarmes dans l'après-midi et la soirée. La victime, dont le pronostic vital était engagé, a été transportée à l'hôpital de Necker à Paris où elle est décédée dans la nuit. Six mineurs sont actuellement en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte pour meurtre sur mineur de 15 ans et violence en réunion. Une enquête confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Paris. L'auteur présumé du coup de couteau mortel a été désigné par quatre mineurs en garde à vue. L'arme du crime n'avait pas été retrouvée hier soir. Les rixes entre jeunes gangrènent le département de l'Essonne, a déploré la procureure de la République d'Evry, qui doit s'exprimer au cours d'un point presse en début d'après-midi.
Merci pour ces premières précisions, Marion Dubreuil. La crise sanitaire à qui le tour ? Après la Côte d'Azur, confinée au moins les deux prochains week-ends, des restrictions locales devraient être annoncées à Dunkerque, où l'épidémie continue de flamber avec une incidence près de 5 fois supérieure à la moyenne nationale. Jean Castex évoque des mesures supplémentaires de freinage. Lionel Gougelot, vous êtes à Dunkerque. Le maire et le Premier ministre se sont parlé ce matin.
Oui, effectivement Patrick, et quand le Premier ministre parle de mesures supplémentaires, on pense évidemment à un confinement partiel comparable à ce qui a été décidé pour Nice et la Côte d'Azur. Toutefois, ce n'est pas immédiatement ce que suggère Patrice Vergriete, le maire de Dunkerque. Il espère pouvoir éviter cette extrémité en lançant un appel à une sorte de grande opération zéro rassemblement dans la ville et dans les familles. Mais si Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui est annoncé demain ici à Dunkerque, décide des mesures plus strictes, eh bien les élus, dit Patrice Vergriete, s'en accommoderont.
Si l'État devait venir nous annoncer des confinements en tant qu'élu local, nous n'allons pas nous y opposer, parce que on peut comprendre qu'aujourd'hui, au niveau de la situation du territoire dunkerquois, on peut comprendre un certain nombre de mesures. Ce n'est pas notre proposition, parce que d'abord, un maire est positionné sur la prévention, et nous pensons nous voulons donner une dernière chance à la population dunkerquoise.
Alors en ville, on perçoit quand même un certain fatalisme à l'évocation d'un possible confinement. Résignation teintée de colère dans la bouche de Laetitia, une commerçante qui a observé un vrai relâchement dans les comportements dimanche sur la plage de Malo.
Vu le monde qu'il y avait ce week-end sur la plage de Malo, c'est affolant, affolant. Les gens, ils n'ont pas compris qu'il y avait beaucoup de cas à Dunkerque. Et en fait, c'est beaucoup des gens de l'île qui sont venus. Et ils étaient tous collés, sans masque. Moi, je comprends pas. Donc ils ont raison de confiner le week-end, en fait. Qu'on en finisse une bonne fois pour toutes, quoi.
Et c'est donc Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui viendra annoncer ces nouvelles mesures demain. Mais certains élus se demandent ici s'il n'en a pas déjà perdu trop de temps.
Dunkerque, où vous nous appelez Lionel Gougelot, merci. Et il n'y a pas qu'à Dunkerque, hélas. La semaine dernière, nous vous expliquions ici même que la pandémie reculait presque partout dans le monde, y compris en France, malgré les variants, eh bien le vent a tourné depuis. Plus de 3400 malades du Covid sont hospitalisés en réanimation, niveau inédit depuis début décembre. L'épidémie est repartie en France, Anne Le Gall. Toutes les courbes sont maintenant orientées à la hausse.
Effectivement, le nombre de contaminations quotidiennes en France est en hausse depuis presque une semaine. Ça n'était pas arrivé depuis début février. Le nombre des hospitalisations augmente également au niveau national depuis dimanche, avec des tensions particulièrement marquées en région PACA et dans les Hauts-de-France, mais aussi en Moselle, où les variants sud-africains et brésiliens sont très présents. En Île-de-France, où les entrées en réanimation sont sur un plateau montant, le directeur des hôpitaux de Paris a parlé de semaine de vérité. Alors, cette tendance à la hausse va-t-elle durer ? Formellement, il est encore trop tôt pour conclure, mais il est vrai que cette hausse correspond à des projections qui ont été faites par différents épidémiologistes. Au niveau du calendrier, cela concorde avec la propagation du variant britannique qui est déjà dominant dans certains départements et qui devrait le devenir la semaine prochaine au niveau national. On se situe donc effectivement à un possible moment de bascule.
La bonne nouvelle, Anne, c'est l'efficacité démontrée des vaccins dans le pays qui en a le plus administré. Israël.
Oui, là-bas, un tiers de la population a reçu ses deux doses de vaccin Pfizer-BioNTech et d'après les données compilées, le ministère de la Santé israélien confirme que les injections permettent de prévenir les contaminations à 95% deux semaines après la deuxième injection. Les deux doses de vaccin permettent aussi de prévenir les formes graves et les décès à 99%. De quoi espérer donc un retour à la vie d'avant pour les vaccinés. Au moyen d'un laissez-passer, ils peuvent déjà retourner dans les salles de sport depuis ce week-end et devraient pouvoir prochainement fréquenter de nouveau les bars et les restaurants.
Anne Le Gall, les États-Unis ont franchi la barre des 500 000 morts du Covid, bilan déchirant, dit Joe Biden, qui a observé une minute de silence. Mais l'épidémie reflue et symbole d'un début de retour à la normale. Les salles de cinéma sont autorisées à rouvrir à New York le 5 mars, presque un an jour pour jour après leur fermeture. Reprise des séances avec une limite de 50 spectateurs par salle et une jauge maximum de 25%. En France, la médecine du travail pourra procéder à des vaccinations en entreprise à partir de la fin de semaine. Olivier Samin.
Oui, ce sont les salariés de 50 à 64 ans inclus qui vont être concernés. Mais attention, pas tous. Uniquement ceux qui sont vulnérables et qui, à ce titre, sont plus exposés aux formes sévères de la maladie. S'ils le veulent, rappelons que la vaccination est facultative, hein, l'employeur ne peut pas l'imposer, s'ils le veulent, les salariés vont pouvoir se faire administrer le vaccin AstraZeneca. C'est le médecin du travail qui va être mis à contribution. L'exercice, il le connaît, puisque c'est lui qui, tous les ans, propose aux salariés le vaccin contre la grippe. Mais le protocole, cette fois-ci, sera différent. Pas question de faire cette vaccination au milieu de tout le monde dans l'entreprise. Il y a un enjeu de confidentialité, disait ce matin sur Europe 1 la ministre du Travail, Elisabeth Borne.
Comme ça s'adresse à des salariés vulnérables, il ne s'agit pas que l'employeur soit effectivement au courant des problèmes de santé que peut avoir le salarié. Donc ce qu'on demande aux entreprises, c'est de prévenir les salariés et les salariés pourront contacter directement la médecine du travail.
Voilà pourquoi tout va passer par le médecin du travail. C'est lui qui organisera les rendez-vous et la vaccination se fera soit dans son cabinet à l'intérieur de l'entreprise, s'il en existe un, soit en ville, dans les locaux du centre de médecine du travail auquel l'entreprise est rattachée.
Olivier Samin.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant la suite, les agriculteurs qui continuent de perdre du blé et les Français qui font davantage confiance à leurs élus.
Europe Midi. Patrick Cohen.
Vos vaches, cochons, couvées n'iront pas à Paris cette année. Pas de salon de l'agriculture pour la première fois depuis près de 60 ans. À défaut, Emmanuel Macron est allé visiter ce matin une ferme de Côte d'Or à une quinzaine de kilomètres de Dijon pour un débat sur les difficultés du monde paysan. Alexandre Estivalet, 33 ans, l'un des quatre gérants de la ferme, explique ce qu'il attend du président pour le redressement des prix agricoles.
Je pense que le pouvoir des grands distributeurs est très important. Ils ont un moyen de pression même sur les gros industriels qui fait qu'eux n'ont pas forcément de marge non plus et du coup se rabattent sur l'échelon en dessous et donc la base, les agriculteurs, pour garder leur marge. Et le problème, c'est que quand chacun prend sa marge et puis que nous, on est à la fin puis qu'il n'y a plus rien à prendre, ben nous, on n'a plus rien. Donc l'idée de base de partir de nous pour remonter, c'est la bonne. Et je pense qu'il faut qu'ils soient vraiment intransigeants avec tous les maillons de la chaîne pour que chacun ait sa part de bénéfices sur les produits. C'est normal, tout le monde fait un travail, mais que ce soit réparti de manière équitable.
Propos recueillis par Jean-Rémy Baudot, les agriculteurs, célébrés pour avoir réussi à nourrir la France confinée l'an dernier, ont en effet perdu des revenus. Les ventes en supermarché n'ont pas compensé la fermeture des restaurants. Et pour l'année qui vient, les négociations en cours avec les grandes surfaces ne se passent pas très bien, Élise Dangean. Malgré la loi Egalim, les distributeurs continuent de tirer les prix vers le bas.
Oui, en moyenne, ils réclament aux industriels qui font office d'intermédiaires avec les producteurs une baisse des prix pouvant aller jusqu'à moins 1,33%. Ça peut vous paraître abstrait, mais sur de gros volumes, ça change la donne, surtout après une année aussi difficile. Car si les négociations commerciales sont traditionnellement complexes, le Covid vient perturber davantage les discussions. Michel-Édouard Leclerc en a conscience.
La négociation cette année, elle est complexe parce que nous reconnaissons que beaucoup d'industriels rament, vraiment beaucoup, et c'est très difficile de négocier avec quelqu'un qui rame.
Et pourtant, ça n'empêche pas les mastodontes de la grande distribution d'en demander toujours plus à des fournisseurs qui ont déjà l'impression d'en faire beaucoup, selon Richard Panquio, directeur de l'ILEC, qui défend les intérêts des gros industriels.
Moi, je peux vous dire qu'en moyenne, les industriels ont proposé des augmentations de leurs tarifs de 2 à 3 %. Il y a probablement des exceptions, mais ça ne me paraît pas déraisonnable. Si on parle de transparence, la plupart des entreprises qui sont dans les filières agroalimentaires ont respecté la loi et notamment donné de la visibilité sur ce qu'on appelle les indicateurs de coûts, sur les raisons pour lesquelles ils augmentent leurs tarifs. Donc je pense qu'on a fait le boulot.
Au bout de la chaîne, les agriculteurs qui suivent de très près ces négociations, avec en tête les très bons résultats de la grande distribution l'an dernier, comme ceux de Carrefour qui a réalisé sa meilleure performance depuis 20 ans. De quoi laisser un goût amer.
Élise Dangean, la crise a aussi fait évoluer le regard des Français sur leurs élus. C'est le baromètre annuel du CEVIPOF, le centre de recherche de Sciences Po, indicateur précieux. Même si la défiance reste majoritaire, le niveau de confiance à l'égard des institutions a nettement remonté au cours de l'année écoulée, Hélène Terzian.
Oui, aussi étonnant que cela puisse paraître, tous les indicateurs sont en hausse. 37% des Français font confiance au président de la République. C'est 7 points de plus que l'an dernier. Le gouvernement, 35% des Français lui font confiance, plus 8 points sur un an. Et le plébiscite, il est pour les institutions locales, conseillers régionaux, départementaux. En tête, le maire avec 65%. C'est lui qui inspire le plus confiance. Rien d'étonnant ici pour le chercheur au CEVIPOF, Bruno Cotresse.
Vous savez, les collectivités locales, les élus de proximité, les maires en particulier, ils incarnent aux yeux des Français d'abord la politique au réel. Ils ont beaucoup géré aussi concrètement cette crise. Ils sont beaucoup montés au créneau. La vaccination, mais aussi la fourniture des masques. N'oublions pas que pour beaucoup de Français, eh bien, les premiers masques qui ont été mis à disposition, ils s'étaient distribués par les régions, par les mairies.
Alors oui, il y a un regain de confiance, mais il est en trompe-l'œil. En fait, dans ce baromètre, on revient à des niveaux équivalents à ceux d'il y a 4 ou 5 ans. On se remet de la crise de confiance qui avait suivi le mouvement des Gilets jaunes. Ces indicateurs dans le vert, Bruno Cotresse les temporise. Ça ne veut pas dire que les Français valident le contenu des actions et on le voit très bien en leur posant cette question. Le gouvernement gère-t-il bien la crise ? Avec 37% d'avis favorables, on est loin des scores de nos voisins européens puisque 48% des Britanniques et même 56% des Allemands approuvent l'action de leur exécutif.
Merci Hélène Terzian. Le Haut Conseil sur le climat, instance indépendante créée par Emmanuel Macron pour évaluer l'action publique, juge insuffisantes les mesures du projet de loi climat, portée réduite, manque d'ambition, pas suffisant en tout cas pour atteindre l'objectif de 40% de réduction des gaz à effet de serre d'ici 2030, Virginie Riva.
Oui, la critique est de taille. En clair, le projet de loi n'est pas assez ambitieux. Les mesures vont dans le bon sens, estime le Haut Conseil pour le climat, mais elles ont une portée trop réduite, indique cet organisme indépendant. Créé par Emmanuel Macron, il a pour mission d'évaluer la politique climat du gouvernement. Les critiques portent sur les mesures phares, comme la réduction des vols intérieurs. Le projet de loi entend interdire ces vols lorsqu'il existe une alternative en train, direct, de moins de 2h30. C'est trop peu pour le Haut Conseil. Même chose pour la publicité. L'interdiction de la pub est en l'état limitée aux fournisseurs d'énergie fossile. Pas assez exigeant, l'organisme voudrait qu'elle soit étendue au SUV ou à certains produits alimentaires incompatibles avec la transition écologique. Dans le viseur enfin, les dispositions relatives à la rénovation énergétique des bâtiments, le Haut Conseil souligne l'effort fait sur l'interdiction de la location des passoires thermiques, dispositif jugé cependant insatisfaisant car ne s'appliquant pas aux propriétaires occupants. Il faudrait, ajoute-t-il, une trajectoire d'obligation de rénovation courant jusqu'en 2050. Sur ce point en particulier, l'entourage de la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili nous fait savoir que l'examen parlementaire mi-mars permettra d'enrichir le texte.
Enfin, erreur de Pôle emploi en votre faveur. 40 000 demandeurs d'emploi ont perçu à tort une prime destinée aux permittents. Ce qu'on appelle les permittents, ces travailleurs qui enchaînent les contrats courts tout en touchant une allocation chômage. Faut-il récupérer ou non les trop perçus auprès de ces chômeurs? Clément Le Saffre, la question fait l'objet d'une bataille interne à Pôle emploi.
Oui, cette prime d'un montant maximum de 900 euros concerne les travailleurs ayant alterné période d'emploi et de chômage afin de leur garantir un revenu mensuel stable en cette période de crise. L'aide est versée automatiquement par Pôle emploi, mais les syndicats ont constaté début février des dysfonctionnements techniques. Certains permittents ont reçu la prime alors qu'ils n'y avaient pas droit et d'autres n'ont rien perçu alors qu'ils pouvaient y prétendre. Certaines directions régionales ont demandé aux conseillers de récupérer les sommes versées par erreur. David Valaperta, représentant CFDT au CSE de Pôle emploi, appelle à la clémence.
La crainte, évidemment, c'est de devoir gérer des situations de tension devant un emploi qui serait dans un état de colère assez légitime. Donc la CFDT plaide pour ne pas procéder au rattrapage des sommes trop perçues qui ont été appliquées aux demandeurs d'emploi.
Alors contacté par Europe 1, Pôle emploi indique que 682 000 primes ont déjà été versées, mais l'organisme ne confirme pas le chiffre de 40 000 trop perçus. Il indique que des vérifications sont encore en cours. À cause d'un décalage temporel dans l'envoi de documents, certains dossiers, considérés aujourd'hui comme des trop perçus, pourraient finalement être éligibles à la prime. Les syndicats de Pôle emploi, eux, ont demandé au ministère du Travail de faire un geste en annulant les demandes de remboursement.
Clément Le Saffre, le temps, Anissa l'a dit, le soleil pousse les nuages.
Oui, les quelques brouillards et nuages situés sur la façade ouest ce matin sont en train de se dissiper. Et si vous regardez bien, normalement, derrière les nuages, il y a un beau ciel bleu. Effectivement, le soleil va prendre de la place sur les trois quarts du pays cet après-midi. Sur la moitié nord, on aura un ciel partagé entre nuages et éclaircies, puis partout ailleurs, c'est vraiment du très beau soleil. Sur le Finistère, quelques nuages s'accrochent encore avec le vent du sud qui souffle assez fort. Et puis sur les Cévennes, hier, on a eu des très fortes pluies. Aujourd'hui, ce sont quelques averses au programme avec le vent d'autant qui souffle jusqu'à 80 km/h. En fait, là où il fera le plus beau, c'est sur la façade est, entre l'Alsace et la Côte d'Azur. 13 degrés pour Brest cet après-midi et Lorient, 15 degrés à Dunkerque, 16 à Lille et Montpellier, il fait très doux. Hein. 18 pour Paris et Belfort et 20 la maximale dans l'Allier à Montluçon.
Merci Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant, on va prendre des nouvelles d'un lieu de culture important, la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Son directeur général Hervé Chandès est notre invité. Il met l'une de ses expositions en ligne.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Hervé Chandès.
Bonjour Patrick Cohen.
Vous êtes le directeur général de la Fondation Cartier pour l'art contemporain, magnifique bâtiment de Jean Nouvel, installé boulevard Raspail à Paris, fermé, comme tous les musées et lieux culturels depuis la fin octobre.
Fermé, mais on patiente, on s'impatiente parfois, on patiente, on va rouvrir, on est confiant et on travaille. On travaille sur la programmation à venir, ouais. On travaille bien sûr sur le digital pour valoriser et faire valoir les expositions qu'on a, qui sont invisibles. Et puis on prépare des tonnes de projets à l'étranger, on publie des livres, on est actif et vivant.
On va en parler dans un instant. Il vous arrive tout de même de penser que dans ces espaces vastes, des grands volumes imaginés par Jean Nouvel, il y aurait eu moyen de faire défiler des visiteurs selon une jauge définie dans la sécurité sanitaire?
Oui, il m'arrive d'y penser. Oui, c'est possible. C'est possible. Mais bon, je pense que on est clairement dans un moment qui est compliqué pour tous. Je pense qu'on n'a pas de leçon à donner à quiconque. Mmh. Toujours est-il qu'on peut le faire.
Alors, 5 jours avant cette fermeture, fin octobre, l'événement à la Fondation Cartier, c'était une rencontre avec le cinéaste arménien Artavas Pelechian, metteur en scène souvent célébré comme un génie, mais assez méconnu en France, et avec une filmographie très, très réduite, très peu de films, dont un nouveau que vous deviez présenter. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter Pelechian d'abord, Hervé Chandès?
Oui, je vais vous présenter Pelechian. Je précise néanmoins que l'exposition, que la Fondation, comme les autres musées français en France, sont susceptibles de rouvrir prochainement. Donc cette exposition qui devait s'achever en mars, en tous les cas, on la prolonge
bien sûr,
potentiellement jusqu'à la fin du mois d'avril.
Elle aura une autre vie.
Voilà, une autre chance aussi.
Alors dites-nous, Pelechian.
Donc Artavas Pelechian est un cinéaste roumain, qui a 82 ans aujourd'hui, qui vit, Artavats vit à Erevan. C'est en effet un cinéaste mythique, pas connu du grand public ou peu connu, très bien connu dans le, très connu dans le, et très célébré et dans le milieu du cinéma. C'est quelqu'un qui a fait ses classes à Moscou, dans les grandes écoles du cinéma à l'époque soviétique dans les années 60. Et qui a, c'était la grande école du cinéma soviétique. Il a rencontré parmi d'autres, c'est l'école qui a formé Tarkovsky et des grands noms du cinéma soviétique et russe. Et puis
il a été célébré comme un génie par Serge Danet, Jean-Luc Godard, avec qui il y a eu des conversations. Et ça, l'une de ses spécialités, alors j'ai pas vu La Nature qui est présentée, qui est son nouveau film. C'est un film de montage avec des images glanées sur la toile qui nous plonge au cœur de la nature et de ses secousses. C'est un film qui parle du rapport de l'homme avec la nature et la musique. On peut le résumer comme ça, Hervé
Sandès. Le résumer comme ça. Je préciserai peut-être, si vous me le permettez, en disant que c'est quelqu'un qui a fait très peu de films. En effet, sa matière première, l'image, ce sont des archives. C'est des images d'archives. Il est considéré peut-être comme le plus grand monteur de l'histoire du cinéma. Et une de ses grandes inventions, c'est le rapport entre l'image et le son. Je précise que ce sont tous des films sans parole. On en parle, mais ce sont des films sans parole. Et donc, il a fait très peu de films, 9, et ce sont des très courts films entre 10 et 30 minutes, et que La Nature, donc, qui est présentée à la Fondation Cartier, est son premier film depuis 27 ans.
Cette exposition et ces films de Pelléchian, vous les proposez en ligne désormais, Hervé Sandès?
En partie en ligne. On est en train de finaliser, il sera très prochainement en ligne, un site dédié à Artavats Pelléchian. Aujourd'hui, son œuvre est quasiment inaccessible. Il n'y a pas vraiment il y a très peu de documents accessibles, à la fois sur son œuvre, sur son histoire, sur ses films, sa filmographie, et sur son aventure autobiographique, si je puis dire. Et ce site est extrêmement complet. C'est un travail qu'on a fait avec Artavats lui-même, qui est quelqu'un qui vit dans le secret, qui a très peu de vie sociale, qui parle à très peu de monde, qui ne sort pas. Et il nous a fait confiance et on mène ce travail avec lui depuis des mois maintenant.
Donc pour voir La Nature, il faudra attendre la réouverture de la Fondation Boulevard Raspail.
Exactement.
Bon, Le Monde parlait, le journal Le Monde parlait du plus grand film catastrophe de tous les temps, avec cette démonstration d'une nature balayant l'homme qui l'a maltraité. Et finalement, c'est heureux parce que le film de Pelléchian sur son ordinateur, ça ne sera sans doute pas, ça n'a sans doute pas le même effet que de le voir dans une vraie salle et dans des conditions de cinéma comme c'est possible à la Fondation.
Non, moi je l'ai vu dans les deux situations et sur l'ordinateur c'est autre chose, mais c'est, la puissance est là. C'est un hymne effectivement à la nature, c'est un film très extraordinaire.
Merci beaucoup Hervé Sandès, directeur général de la Fondation Cartier, et donc je renvoie à tout ce que vous pouvez nous proposer en ligne en attendant votre réouverture physique.
Exactement.
On est d'accord. Merci à vous.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Merci de nous avoir suivis le 13h de Roman Hockey dans un instant, puis la France bouge évidemment. Bonne journée.